Seul, je vais vite.
Ensemble, je vais plus loin.
Parce que la relation,
c'est essentiel. Une émission d'Émilie Vialette.
De quoi t'aurais besoin pour pouvoir avancer?
Ok, c'est quoi ta demande? De quoi t'as besoin?
Essentiel, l'émission qui vous emmène au cœur des relations humaines. En allant au travail un matin, Sophie réalise que c'est bientôt les vacances et qu'elle a totalement oublié de se préoccuper de la garde de ses enfants. Toute la journée, elle passera des coups de fil pour voir si les grands-parents pourront les garder un peu, idéalement beaucoup. S'ils accepteront d'en garder un seul ou les deux. Puis elle appellera le centre de loisirs pour vérifier s'il reste de la place les jours où aucun des grands-parents ne sera disponible. Enfin, en désespoir de cause, elle contactera une maman de l'école pour voir si elle pourra la dépanner une après-midi ou deux. À la fin d'une journée prise de tête, le planning sera plus ou moins ficelé, avec néanmoins quelques trous où elle fera comme elle pourra. Le soir, à table, elle dira à son mari « Au fait, tu sais que dans 2 semaines, c'est les vacances ?»« Ah ouais, c'est vrai », répondra-t-il distraitement, en remettant le nez dans son assiette. Sans trop exagérer, on peut dire que la charge mentale du foyer repose dans 80% des cas sur les femmes, qui pourtant travaillent dans 80% des cas autant que les hommes. Les femmes le savent, ça les énerve, et pourtant, elles continuent. Comme si ce rôle était insidieusement rentré par chacune de leurs pores et qu'elles le remplissaient malgré elles. Questionner les violences invisibles, les oppressions socialement acceptées, tel est l'objectif du théâtre de l'invisible. Et pour en parler plus longuement, je reçois aujourd'hui Jean-François Roustan, qui est auteur, metteur en scène et formateur. Jean-François, bonjour.
Bonjour Émilie.
Alors, peux-tu nous présenter en quelques mots ce qu'est le théâtre de l'invisible ?
Quelques mots. Alors oui, c'est une discipline particulière qui permet, par lequel, les comédiens, les comédiennes, vont jouer au milieu des spectateurs ou des participants, spectateurs non consentants, en quelque sorte, d'un événement où ça peut être bien évidemment dans la rue, ça peut être dans l'espace public, c'est l'espace privé, dans l'entreprise, au sein de la famille, un peu n'importe où. Des artistes dramatiques donc se mêlent sous de fausses identités pour jouer des scènes en général d'oppression, en tout cas problématiques, en mettant en avant des comportements différents.
Alors, comment tu as découvert ce type de théâtre et pourquoi il t'intéresse ?
C'est une bonne question. Comment est-ce que j'ai trouvé cette forme ? Eh bien, je pense que je l'ai découverte quand j'ai découvert la pratique théâtrale, donc il y a presque 30 ans maintenant, à un moment où j'ai fait la bascule entre le jeu de rôle en grandeur nature et les interventions théâtrales. Puisqu'à ce moment-là, j'ai commencé à mettre en place donc ce qui s'appelait à ce moment-là des jeux de rôle en grandeur nature pour des collectivités ou pour du grand public, qui était donc une activité purement ludique, hein, bien évidemment. Et puis de travailler avec des artistes dramatiques m'a permis de découvrir des pratiques type le théâtre de l'opprimé, type l'agite propre, dont je me suis inspiré, et puis en allant piocher au fur et à mesure des années les outils les plus adaptés à ce que je souhaitais mettre dans ma propre pratique, j'en suis arrivé à pratiquer cette forme de théâtre-là.
Est-ce qu'on pourrait dire que les jeux de rôle que tu faisais, c'était on va dire des jeux faits sur commande pour des situations particulières, et qu'en fait c'est un peu le même principe, mais dans des situations où les gens ne sont pas avertis ?
Alors on pourrait le dire, mais ça ne correspond pas complètement à ma réalité en tout cas, puisque initialement j'étais dans une proposition 100% ludique. Et puis, en voyant la force et la capacité de connexion interpersonnelle que proposaient les jeux de rôle, et qui proposent toujours aussi bien d'ailleurs, j'ai trouvé intéressant de les appliquer sur des sujets qui ne soient pas des mondes imaginaires, qui ne soient pas de l'enquête, qui ne soient pas de la féerie fantastique, qui ne soient pas, mais qui soient des sujets de société, où effectivement, de trouver un pont et en utilisant les formes et les outils, notamment du théâtre de l'opprimé et quelques bouts de l'agite propre, eh bien, j'ai monté des formes qui me permettaient d'aborder les sujets de notre société actuelle.
Bon, alors on va rentrer dans le détail, puisqu'en préparant cette interview, tu m'as raconté plusieurs situations dans lesquelles tu es intervenu en entreprise pour mettre à jour une ou des questions sociales qui les préoccupaient. Est-ce que tu pourrais nous en raconter une qui t'a marqué ?
Alors, effectivement, il y en a eu un certain nombre. Une question sociale, oui. Alors, j'en vois une assez illustrative À l'échelle d'une entreprise, hein, bien évidemment, c'est une question qui est complètement redevenue d'actualité depuis le passage massif au télétravail à des entreprises, qui est celle de l'espace par occupant. Le mètre carré par occupant dans les immeubles de bureaux. Donc nous avions été sollicités effectivement par un groupe sur cette question-là. Tu peux imaginer que c'est une question qui fait débat, l'aménagement de l'espace. Est-ce qu'on travaille chacun enfermé dans son bureau? Est-ce qu'on travaille en open space? Est-ce qu'on travaille sur des espaces qui sont l'un ou l'autre? Est-ce qu'on est sur un bureau fixe? Est-ce qu'on est sur un bureau partagé? Est-ce qu'on est sur un bureau à la commande, comme c'est en train de se développer dans un certain nombre d'entreprises, dans lesquelles les salariés n'ont pas de pupitre attitré, mais pointent au jour le jour, suivant leurs heures de travail, pour avoir un espace de travail?
Et là, quand ils ont fait appel à vous, oui. C'était pour... ils voulaient quoi? Avoir une base de réflexion? Ils voulaient voir comment les salariés allaient réagir pour capter de l'info en retour et ajuster leurs décisions? Ou ils avaient déjà pris une décision et ils voulaient juste vérifier?
Alors, nous étions face à un commanditaire qui avait déjà opté sur une stratégie de long terme et qui, enfin, se rendait compte qu'il fallait passer par les équipes pour leur soumettre l'idée d'aménagement, et pour voir comment, antenne par antenne, ça pouvait réagir, ça pouvait se mettre en pratique. Donc, c'était un petit peu l'histoire de la charrue avant les bœufs, hein, qui est quand même une pratique, hélas, très très répandue dans les groupes, de consulter ce qu'ils considèrent comme la base, c'est-à-dire les équipes, en dernier. Donc c'était une action d'accompagnement au changement, dans le sens de renouer, une tentative en tout cas de renouer un dialogue social qui avait été effrité par des pratiques managériales un peu trop agressives, et franchement obsolètes. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a pu travailler en récoltant la parole directement. Donc dans une première étape, on va récolter la parole des personnes de l'entreprise à plusieurs niveaux de vie. Plusieurs niveaux de décision. On va pouvoir construire un scénario et des identités de nos personnages fictifs en fonction des argumentaires de part et d'autre, hein, donc les argumentaires de violence ressentie, mais aussi les argumentaires de nécessité, d'évolution, etc.
Donc là, ce sont un peu des complices qui te donnent de l'info et qui vont... Voilà, les autres ne savent pas qu'il va y avoir un jeu, donc eux, ils sont dans la confidence.
Alors, oui. Okay. Oui, voilà. Alors, on ne peut pas forcément parler de complice, puisque à ce moment-là, tout le monde ne sait pas encore la forme que va prendre notre intervention, puisque notre forme va être décidée notamment en fonction du contenu, de l'espace-temps dans lequel nous allons pouvoir intervenir, et trois, de la forme d'interaction souhaitée.
Et alors, du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça a donné?
Alors, dans ce cas-là, ça a donné deux choses différentes. Une action qui a été effectivement d'avoir, sur une journée de séminaire, d'avoir des faux salariés qui ont intégré le rassemblement de plusieurs agences de régions différentes, dotés tous d'une personnalité très compliquée et dans des comportements un peu débordants, qui ont sollicité... tous leurs interlocuteurs et interlocutrices au long de la journée avec des idées fixes sur certains sujets. Il se trouvait que les sujets croisaient notamment la question de l'espace vital, la question de la confidentialité, la question du regard de l'autre, la question de l'écoute, de la discrétion, de la sphère privée, de l'échange, du croisement entre espace privé et espace partagé dans un travail collaboratif. Voilà, ils ont porté donc ces sujets-là de façon... qu'on pourrait caractériser d'obsessionnel, hein, sur un comportement lambda de collègues, pour créer, et donc ont généré de la réaction et ont généré de la discussion entre les personnes qui ont assisté à leurs éclats.
Tu pourrais donner un cas concret d'une situation là dont tu parles? Qu'est-ce qu'il est venu jouer, par exemple?
Alors, on a, par exemple, il y avait donc un des personnages qui était un nouvel embauché qui avait un rapport à sa... On pourrait dire qu'il avait un complexe d'Oedipe assez développé, et donc un rapport à l'attachement familial un peu exagéré. Ouais, voilà, on va dire qu'il n'est pas coupé tous les cordons. Et donc, il est arrivé chargé de cela. En tournant, bien évidemment, ce qui peut être... Bon, ce qui est d'une part un comportement qui existe, mais en le poussant dans les caricatures progressivement, bien évidemment, mais en le ramenant surtout au sujet justement d'espace partagé, de confidentialité, d'irruption, etc.
Mais par exemple, il pouvait appeler ses parents en plein milieu du travail, des choses comme ça.
Voilà, c'est ça. Donc par exemple, dans cette journée de séminaire, il a passé une bonne part de son temps en pause et hors pause à répondre à des appels de sa mère, et puis surtout à appeler sa mère en direct, à rendre témoin ses voisins et ses voisines immédiates de ses correspondances avec sa mère, et puis surtout de partager à voix haute les sujets qu'il partageait censément avec cette mère fictive. Jusqu'au moment où il est monté en tension progressivement au fil de la journée, jusqu'au moment où il va s'isoler de façon tout à fait indiscrète, s'isoler donc derrière la plante verte au milieu de tout le monde, pour avoir une conversation à voix haute très forte avec sa mère, en se plaignant justement de l'empiétement sur son espace vital, du fait qu'il y ait des gens qui le regardaient partout, qu'il était impossible pour lui de travailler dans ces conditions-là, qu'il se sentait en insécurité, qu'il sentait bien que n'importe qui pouvait débouler n'importe quand dans son espace, et puis de toute façon, il n'avait pas assez de place, et puis tu comprends, maman, c'est toujours pareil, moi, de toute façon, je ne voulais pas y aller, etc. Ouais. Et on est donc dans un comportement qui est complètement hors du commun, problématique, visiblement, avec de la souffrance. Mais sous cette souffrance de façade et de caricature, sous ce comportement exagéré, nous allons droit sur les arguments et droit sur les sujets qui ont été portés, dont ont témoigné les salariés.
Et là, si on reprend ce cas précis, sur quoi ça aboutit à la fin ? C'est-à-dire, il y a une révélation de la supercherie, vous révélez ce qui s'est passé, ou bien vous restez là-dessus ? Est-ce qu'il y a un espace d'échange de paroles derrière ? Est-ce que c'est débriefé ? Comment vous avez géré le après cette situation ?
Alors, comme tout crescendo qui se respecte, notre crescendo s'achève par un final paroxystique, avec une rencontre entre les différents personnages, entre les différents faux salariés. Révélation donc qui se fait à l'ensemble des personnes présentes, et puis qui est enchaîné par une forme, là cette fois-ci, vraiment scénique, où les comédiens, une fois démasqués, vont jouer en tant que comédiens sur une scène, une scénette qui est écrite à partir du recueil des paroles, pour avoir vraiment une présentation la plus exhaustive possible de toutes les paroles recueillies. Et cette présentation-là donc reprend le canevas et reprend tous les codes de la présentation frontale théâtrale, et donne ensuite lieu à des discussions internes à l'entreprise. Bilongo, Mandinga.
Estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Cuando se va de casa, qué triste me pongo. Enamorado, 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 enamorado. Yo estoy de la negra Tomasa. Que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Ay, ay, ay. Mira que esa negra linda, cámara, mira medio virongo. Esa negra santa, cámara.
Ça me permet d'arriver sur l'action que je voulais te poser. Est-ce que tu penses que la mise en scène de situations d'injustice ou d'oppression ou d'autres questions sociales permet de faire bouger les lignes dans les équilibres relationnels ? Autrement dit, est-ce que cette intervention permet vraiment de susciter un débat et au-delà de ça, de faire bouger les choses en interne dans l'entreprise ?
Oui, ta question est double. J'ai envie de. Alors, bien évidemment, j'en suis convaincu. J'ai pu assister sur de nombreux sujets. Par exemple, que ce soit ce sujet-là sur des individus ou un sujet tel que le handicap dans l'entreprise. Voir effectivement des personnes bouger sur leur position, sur leur perception, mais surtout sur leur capacité d'écoute. Et leur capacité d'envisager l'argument de l'autre, d'envisager l'autre tout simplement, et de se repositionner dans un rapport d'humain à humain et non de poste à poste ou d'étranger à individualité.
Ce repositionnement, tu l'observes à travers l'échange qu'il va y avoir derrière, sur la manière que vont avoir les gens d'interagir entre eux ?
Alors oui, sous des formes plus davantage structurées, telles que le théâtre forum, par exemple, ou le théâtre image, où là, on va effectivement avoir des personnes qui vont prendre la parole et dont on va voir la parole évoluer en se teintant celle des autres, puisqu'on sera à ce moment-là dans un rapport d'équité avec un cadre qui pose un regard tiers, en quelque sorte, sur les paroles. Et donc, on peut sortir un petit peu de soi. Sur le théâtre de l'invisible, on assiste à... Mais bon, je ne vais pas non plus faire de grosses généralités, hein, c'est vraiment un ressenti très personnel basé sur mon expérience. On assiste à une mise en lien des individus entre eux, puisqu'on travaille sur la rumeur, en fait. Le fait d'avoir des personnes comme ça qui sont dispatchées dans une assemblée va créer une rumeur, et on va se retrouver avec 200 personnes qui ne se connaissent pas toutes au départ, vont se retrouver au bout d'une heure ou deux, ou trois, suivant la durée de l'intervention, à toutes parler du même sujet, les sujets portés par nos faux personnages. Puisqu'ils auront fait un effet de boule de neige, et chacun ayant été témoin des éclats des uns et des autres, va en parler à son voisin, etc. Et là, on est du coup, on se retrouve, et c'est un des aspects magnifiques de cet outil-là, je trouve, nous nous retrouvons dans des discussions non frontales entre les personnes. Parce que justement, il y a un objet tiers qui porte le sujet. Du coup, je ne suis pas forcément sur mon expression personnelle, et quand je suis sur mon expression personnelle, je ne suis pas sur une expression antagoniste, par rapport à un avis divergent. Et tout le monde a une voie de sortie pour parler d'une chose de façon un peu déplacée, un peu décalée sur son positionnement frontal, et on va pouvoir aller plus loin dans l'échange, oui.
Ma question, elle portait aussi sur l'évaluation, c'est-à-dire comment tu évalues la réussite. Est-ce que tu reviens quelques temps après dans l'entreprise? Est-ce que tu demandes aux personnes qui t'ont commandité, est-ce qu'elles ont pu voir une évolution? Voilà, en quoi tu peux mesurer les effets de l'outil que tu as amené?
Alors, c'était le deuxième volet, effectivement, de la question, pour lequel j'étais tenté de répondre un non, en tout cas d'y mettre de la nuance, puisqu'effectivement, nous, Compagnie de Théâtre, n'avons pas forcément la main sur un suivi de notre action. Alors, par moment, nous avons la chance de pouvoir proposer dans notre intervention d'arriver accompagné d'une personne spécialisée en RH ou en technique managériale. Et cette personne-là, à ce moment-là, elle va s'emparer à la fois de la matière qui aura émergé de notre intervention et des échanges qui auront suivi, et va pouvoir gérer sur la durée, justement, l'évolution de la situation au sein de l'entreprise. Mais ça n'est hélas pas toujours possible, en fait. J'ai et nous n'avons hélas aucun contrôle sur les intentions des personnes qui commandent ce genre d'intervention. Alors bien évidemment, même si nous balisons en amont très précisément et très clairement les limites de notre intervention et les limites de ce qu'on va accepter de porter ou défendre comme sujet, une fois que les portes se sont fermées derrière nous, nous n'avons aucun contrôle, bien sûr, sur ce que font...
Vous avez amené votre petite pierre et vous avez fait quelque chose.
Voilà, mais nous avons apporté la pierre, nous avons mis les personnes en situation d'échange, de témoignage, d'écoute équivalente.
Voilà, tu as rendu éventuellement possible que quelque chose émerge. Après, tu ne contrôles pas ce qu'il y a derrière.
Voilà. Après, s'il y a effectivement des vrais sujets de débat social, il appartient aux organisations syndicales qui existent au sein des entreprises de s'en emparer. Mais effectivement, il nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des échanges directs et très nourrissants avec des délégués de personnel qui voient justement toute la matière qui émerge de nos propositions.
En préparant l'entretien, tu m'as également dit que le théâtre de l'invisible pouvait être utilisé dans des situations plus ludiques, telles que les mariages ou les fêtes. Est-ce que tu peux nous dire, dans ce cas, comment l'est utilisé et quel est son objectif ?
Alors, l'objectif va être un peu différent et complètement similaire. Un peu différent puisque nous allons aller sur des sujets d'une gravité bien moindre, bien évidemment, puisque nous sommes sur des événements festifs. Mais similaire dans le sens où la mécanique est la même et où nous allons là aussi chercher à créer du lien entre des convives qui ne se connaissent bien souvent pas tous et toutes les uns les autres, créer du lien en les rendant témoins de situations plus ou moins dérangeantes et surtout de plus en plus encombrantes et de plus en plus dérangeantes et inhabituelles.
Tu pourrais donner un exemple concret de jeu que tu as pu imaginer ?
Alors un exemple concret, ça va être une population de comédiens qui s'infiltrent dans le service du traiteur, par exemple, qui vient en tribu, donc 2, 3, 4, 5 serveurs qui font un extra ce jour-là pour ce traiteur-là, et qui viennent tous de la même ferme auberge. Ils ont un projet, formidable dans leur ferme auberge, et ils viennent le financer en faisant des extras à droite à gauche. Et bien sûr, avec leur projet, arrive son lot de questions, de problèmes interpersonnels, de peurs, de craintes, de projections. Et ils vont très largement raconter leur vie à, au maximum de convives qu'ils vont pouvoir croiser sur un effet de crescendo. Donc en allant très loin dans le détail de l'interpersonnalité, bien évidemment, hein, pour aller dans l'émotion, pour aller dans le personnel. Et ils vont associer à cela des comportements complètement inhabituels pour des serveurs. Donc ils vont faire l'inverse de ce que font les personnes que nous sommes habitués à nous voir servir, c'est-à-dire qu'au lieu d'être invisibles, ils vont être de plus en plus visibles, de plus en plus présents. Donc ils vont commencer juste par des petits détails de débordement, et puis on va aller sur un crescendo tout au long de la soirée où ils vont s'inviter dans les conversations, puis prendre le contrôle des conversations, puis s'inviter à boire le vin, à goûter le vin, insister pour que les gens en reprennent, parce que quand même le gras c'est bon, le gras c'est la santé, ma tata l'a toujours dit, faut y aller, vous allez me finir ça, non parce que quand même on peut pas laisser ça, vous comprenez, etc. Et donc ils vont attirer l'attention comme ça, faire parler d'eux, faire prendre contact aux convives les uns avec les autres sur des petits déraillages, et puis ils vont dérouler leur scénario entre eux, un scénario qui va impliquer bien évidemment des émotions fortes, bien évidemment de la crainte, de la rupture, de la colère peut-être, sans aucun doute de la peur, probablement des larmes à un moment ou à un autre, et essentiellement une grande réconciliation pleine d'amour à la fin, avec un final là pour le coup un peu grand guignolesque, à base de course-poursuite, de déclarations d'amour d'un bout à l'autre de l'espace, de prise en main de la sono s'il y a une sono, voilà. Avant une révélation finale de la supercherie, bien évidemment, pour inviter, là, en général, on ouvre la deuxième partie de soirée qui va être une partie où ça guinche, et où là, les faux serveurs devenus vrais comédiens vont pouvoir lâcher aussi cette étiquette-là et puis lancer avec les spectateurs et les convives la partie plus festive et guinchante de la soirée.
Et comment réagissent les gens du mariage, de ce que tu as pu voir ?
Globalement bien. C'est une belle preuve de... Souvent, ces interventions sont une belle démonstration de la solidarité qu'on peut attendre qu'on peut trouver chez nos contemporains, en fait, puisque nos serveurs vont rapidement se trouver en situation de détresse individuelle. Et nous avons toujours plusieurs personnes qui viennent prendre le plus grand soin d'elles. Donc c'est un beau moment par rapport à ça. Pour tout le monde, en fait. Pour les personnes qui en sont témoins, pour les personnes qui le vivent. Nous sommes dans un vrai échange d'émotions, de rapport à l'autre, qui finalement... Et c'est le paradoxe de la forme. À partir d'une relation fictive, créer un véritable échange. Et ça crée des liens qui sont sans doute assez solides entre les personnes qui vivent ensemble cette expérience, puisqu'on a pu, pour le coup, sur le champ privé, c'est un peu plus facile, curieusement, avoir des nouvelles plusieurs années plus tard, des mariés qu'on avait pu accompagner. Qui nous ont raconté des belles histoires d'amitié nées ce jour-là entre des personnes qui avaient pris soin de la difficulté entre deux serveurs, de la dispute qui avait eu lieu entre le faux frère et la fausse sœur. Donc c'est peut-être il y a des belles choses qui peuvent en sortir. Nous prenons de toute façon toujours un soin immense après la révélation de la supercherie d'aller vers chacune des personnes qui s'est un minimum investi dans cette relation-là, pour justement aller sur une valorisation, bien évidemment, de l'individu, parce que c'est super hein, d'aller vers l'autre et de se mettre en danger, puisque concrètement, nous amenons du chaos et nous amenons de l'inhabituel et nous amenons du danger pour les personnes qui sont témoins de nos interventions, puisque nous changeons le cadre relationnel social convenu et nous les plaçons face à de l'inhabituel. C'est tout ce que ça peut avoir de dangereux.
Et tu as pu avoir inversement des réactions un peu hostiles de la part des gens qui ont été choqués ou pour qui c'était difficile ?
Alors, oui, il nous est arrivé d'avoir une ou deux personnes, effectivement, qui avaient été... Parce que, curieusement, oui, qui ont eu une réaction négative a posteriori, mais curieusement, c'est deux... Je pense que j'en ai trois, là, en un peu plus de 15 ans d'utilisation de ces formes-là. J'en ai trois qui me restent en mémoire, et les trois étaient, excusez-moi messieurs, des mâles dominants qui avaient voulu régler la situation entre les serveurs à coup d'autorité. Et s'étaient investis avec toute l'amplitude de leur virilité pour mettre fin au chaos généré par les serveurs. Voilà. L'un des trois, je me rappelle d'un monsieur à Bordeaux qui avait même fini par sortir ses menottes. Il avait des menottes sur lui, on n'a jamais su pourquoi. et par accrocher un des serveurs manu militari à un radiateur pour qu'il tienne tranquille, parce que là maintenant ça va bien. On n'est pas là pour ça. Et effectivement, ces trois personnes-là dont j'ai le souvenir ne se sont pas montrées complètement satisfaites à la fin. Mais en même temps, voilà, enfin, on peut assez rapidement voir ce qui a pu les déranger.
Et pour finir sur une note positive, oui. Quels sont des retours très positifs que tu as eus de la part des gens? Est-ce qu'on a pu t'en faire directement le jour J?
Oui, alors effectivement, ils sont bien plus nombreux. C'est un tour extrêmement positif, notamment le jour J, au moment où justement les comédiennes et les comédiens vont, où nous allons à la rencontre des personnes qui ont joué le jeu, qui se sont appliquées dans nos relations conflictuelles ou difficiles. Des vrais témoignages d'émotion, des remerciements, de la compassion, de la générosité. Et puis, régulièrement, ce témoignage que c'est formidable de pouvoir assister à, curieusement ou pas d'ailleurs, à des déclarations d'amour aussi belles, de vivre de l'émotion aussi vraie, dans des espaces qui sont toujours des espaces particulièrement contrôlés, hein, espaces de représentation sociale que nous vivons ensemble. Voilà, on reçoit beaucoup de témoignages dans ce sens-là, avec des gens, voilà, beaucoup d'embrassades, beaucoup de moments et de démonstrations spontanées d'émotion et de gratitude.
Alors, avis aux amateurs qui auraient envie d'égayer leur mariage, n'hésitez pas à appeler Jean-François.
Oui, bien sûr.
Je te remercie d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci Émilie.
Essentiel, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion sur Radio South Afrique la première semaine de chaque mois, le lundi à 18h, le mercredi à 16h et le samedi à 14h. Retrouvez également l'émission sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify. Enfin, vous pouvez vous y abonner directement sur le site internet du podcast à l'adresse suivante podcast.osha.co/essentiel-le-podcast.